Il est 8h39.
France Inter, le 7-9, intervenez.
Au 01 45 24 7000, c'est d'abord Fabien qui nous appelle de Brest. Bonjour Fabien.
Bonjour, bonjour Monsieur le Premier ministre.
Bonjour.
Une mesure emblématique de la fin de ce quinquennat a été enfin adoptée, puisque beaucoup de Français l'attendent. C'est le prélèvement de l'impôt à la source qui aura lieu donc à partir du 1er janvier 2018, comme dans beaucoup de pays développés. Est-ce que cette mesure, vu qu'elle s'inscrit quand même dans un calendrier aussi électoral et qu'elle est déjà annoncée comme étant potentiellement remise en cause par vos adversaires politiques en cas de victoire à l'élection présidentielle et législative, est-ce que cette mesure techniquement peut être mise en cause par ses adversaires s'ils venaient au pouvoir ?
Ils peuvent toujours le faire, mais ils auraient tort de le faire. Pourquoi ? Parce que le prélèvement à la source est une mesure qui est favorable aux contribuables qui sont les plus vulnérables. Et lorsque vous perdez votre emploi, vous payez les impôts de l'année précédente. Avec le prélèvement à la source, vous paierez les impôts de l'année en cours. Et par conséquent, vous serez beaucoup moins soumis aux aléas de la vie, et notamment de la vie professionnelle et de la vie économique. Et lorsque vous êtes un contribuable qui est en situation de vulnérabilité ou de fragilité, c'est un progrès considérable que le prélèvement à la source. Donc, ils peuvent toujours le faire, mais je doute qu'ils le fassent. D'abord parce que c'est une mesure de simplification, ensuite parce que l'administration...
Pas forcément pour les entreprises. Bernard Cazeneuve, c'est la principale critique.
Oui.
Source de complications, au contraire, pour les...
C'est une source, en tous les cas, au moment où le prélèvement à la source sera mis en œuvre, qui impliquera des démarches de la part des entreprises, mais lorsque ces démarches auront été faites, elles auront été faites définitivement, et le dispositif fonctionnera, et ce sera un dispositif de simplification, à la fois pour les contribuables et à terme pour les entreprises. Et c'est encore une fois une mesure qui permettra aux contribuables qui sont en situation de difficulté, de vulnérabilité, qui connaissent les aléas de la vie professionnelle ou de la vie économique, d'être beaucoup moins impactés qu'ils ne l'étaient auparavant, au moment du paiement de l'impôt. Et de ce point de vue-là, c'est une mesure aussi de progrès social, c'est pas simplement une mesure de simplification. Donc vous avez eu raison de souligner que c'est une décision importante, que c'est une décision qui changera positivement la vie des Français, et pour toutes ces raisons, je doute vraiment beaucoup qu'un gouvernement, quelle que soit sa sensibilité, remette cette mesure en cause.
J'ai le même type de question standard à propos de la généralisation du tiers payant, oui, chez les médecins. Est-ce que, là aussi, les candidats de droite qui se sont exprimés lors de la primaire ont tous dit qu'ils allaient mettre fin à abroger cette mesure et ne pas généraliser le tiers payant comme
mais ils auraient tort là aussi de le faire. Pourquoi? Parce que
ils peuvent le faire.
La mise en place, oui, ils peuvent le faire, mais enfin on voit bien que tout ce que propose la droite à travers les quelques questions que nous évoquons, c'est de remettre en cause tout ce qui finalement est favorable aux Français les plus modestes, aux Français qui peuvent être les plus en difficulté, aux Français qui doivent se battre quotidiennement pour pouvoir vivre dans des conditions décentes. Nous, ce que nous voulons, c'est au contraire les protéger davantage. Et c'est ce que nous n'avons cessé de faire. Le tiers payant qui permettra aux femmes enceintes et aux Français qui sont victimes d'affections longues de pouvoir bénéficier de ce tiers payant dès le 1er janvier. Puis, il y aura sa généralisation au mois de novembre prochain. C'est un progrès considérable pour ceux qui ont des difficultés pour accéder aux soins. Et l'accès aux soins, l'inégalité d'accès aux soins est une des inégalités les plus flagrantes. C'est une des inégalités les plus inacceptables. Nous avons voulu garantir l'égalité de l'accès aux soins à travers le tiers payant, mais pas seulement. Je me rendrai cet après-midi à Orléans pour inaugurer l'extension d'un hôpital. Nous aurons créé 31 000 emplois de soignants dans les hôpitaux pendant ce quinquennat. Nous aurons mis 10 milliards pour moderniser par des investissements permettant la création de plateaux techniques performants des hôpitaux en France. Et nous l'aurons fait dans un contexte où nous aurons ramené le déficit du régime général de la sécurité sociale de 17,4 millions d'euros, quasiment à l'équilibre, puisque nous sommes à 400 millions aujourd'hui de déficit.
Muriel nous appelle du Calvados. Bonjour Muriel.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, alors moi je voulais réagir parce que je suis déléguée syndicale et donc à ce titre, et puis conseiller du salarié, donc à ce titre je vais aider des salariés qui sont en difficulté, souvent un employeur qui lui n'a pas voulu forcément envie de respecter le code du travail. Donc j'ai été moi à titre personnel et avec des collègues donc porter des dossiers devant les prud'hommes. Moi ce que je constate aujourd'hui c'est que c'est long, c'est coûteux, c'est souvent le parcours du combattant et souvent en face, ben, vous avez des employeurs qui ont des batteries d'avocats et souvent les salariés abandonnent. Je trouve que dans mon métier en tant que délégué syndical, parce que c'est un métier aussi, on a été vraiment par les lois successives, on n'a pas été aidé et on a bien du mal aujourd'hui à obtenir des choses et à faire passer des choses parce que ça a été très facile. C'est très facile pour les employeurs. Moi, je vous ai entendu tout à l'heure, Monsieur Cazeneuve, dire que vous voilà, parler de gauche. Moi, je suis de gauche. Hein. Je vais aller voter aux primaires. Je vais sanctionner parce que je pense que Monsieur Valls n'a pas à se présenter. Il a fait la politique que nous contestons, nous, les gens de gauche, parce que moi, je suis pas la seule. On est vraiment déçus de ce qui a été fait. On a été déçus parce que je crois que la droite en a rêvé et vous l'avez fait pour plein de choses. Et aujourd'hui, voilà, j'irai voter en mon âme et conscience parce que j'irai voter pour les primaires de la gauche.
Vous pensez notamment à la loi El Khomri, à la loi travail.
Oui, tout à fait.
Et
oui,
est-ce que vous pourriez nous dire pour qui vous comptez voter à la primaire?
Oui, j'ai pas du tout de problème. Je pense que je vais aller voter. Enfin, je vais aller voter pour Monsieur Hamon, qui me semble le plus pour qu'on corresponde à ce qu'il défend.
Bon.
Alors, je pense qu'aussi, je voulais juste terminer pour les présidentielles. Je ne sais pas pour qui j'irai voter suivant ce qui se présentera, mais si vraiment il y avait deux personnes et que c'était des personnes qui n'y avait personne de gauche, je pense même, et je suis pas, et j'entends beaucoup de gens autour de moi, des amis, collègues et autres, j'irai voter blanc.
Restez en ligne, Muriel. Bernard Cazeneuve vous répond.
Oui, moi je fais de la politique en regardant les faits. Et j'entends parfaitement ce qui est dit là, mais par rapport à ce qui est dit là, je vois ce que nous avons fait sur de multiples sujets auxquels Madame tient, et qui sont des sujets qui relèvent de ce que l'on appelle le progrès social. Est-ce qu'il y avait la garantie jeune avant que ce gouvernement n'arrive en situation de responsabilité? Est-ce qu'il y avait pour la possibilité donnée aux jeunes pour accéder à l'emploi de se former plus facilement en bénéficiant d'une allocation dont jusqu'à présent ils ne bénéficiaient pas? Non. Est-ce qu'il y avait, à l'époque où M. Fillon et M. Sarkozy étaient au pouvoir, la création de près de 9000 emplois dans les forces de sécurité, de 60000 emplois dans l'éducation nationale pour permettre à l'égalité des chances d'être rétablie? Est-ce qu'il y avait une possibilité pour les enseignants de se former comme ils peuvent le faire aujourd'hui après que nous avons rétabli la possibilité de formation pour les enseignants? Non. Est-ce qu'il y avait la mise en place du tiers payant à l'époque où François Fillon et Nicolas Sarkozy étaient au pouvoir, ou est-ce que c'est nous qui l'avons mis en place? C'est nous. Est-ce que nous avons rétabli ou pas les comptes de la sécurité sociale de telle sorte à pouvoir renforcer notre système de protection sociale et renforcer la solidarité en France? Oui. Et est-ce que nous l'avons fait au détriment de l'hôpital public? J'indiquais tout à l'heure que nous avons mis 10 milliards d'euros pour moderniser les hôpitaux et que nous avons créé 31 000 emplois de soignants dans les hôpitaux, c'est nous qui l'avons fait. Est-ce que il existait?
Mais Muriel vous a entendu déjà.
Oui, non, mais peut-être, mais
à un moment,
peut-être, mais la politique, ce sont des actions dont on décide de la mise en œuvre et des faits. Et on peut toujours considérer qu'il puisse y avoir plus à gauche. Moi, j'invite simplement chaque auditeur et chaque Français à constater quel est le bilan de ce quinquennat dans le domaine de l'éducation, pour la jeunesse, où nous avons créé le service civique, où nous avons créé 500 millions de bourses supplémentaires, où nous avons créé 40 000 logements étudiants de plus, où nous sommes mis en situation de cautionner les étudiants et les jeunes qui ne peuvent pas avoir accès à un logement parce qu'ils n'ont pas de revenus. Désormais, ils pourront bénéficier de la caution de l'État. Nous avons fait 6 milliards d'allègements de fiscalité pour les plus modestes des Français depuis 2014. Nous relevons le plafond de la CSG pour que les retraités les plus modestes paient moins de CSG ou s'en trouvent exonérés, alors que le gouvernement précédent avait mis en place la demi-part des veuves. Et je pourrais comme ça pendant 10 minutes égrener tout ce que nous avons fait. Et donc, moi je tiens à ce que cette élection présidentielle ne soit pas simplement une occasion de bruit, de posture, de confrontation, qu'elle soit aussi l'occasion, et c'est mon rôle de Premier ministre, que de le faire avec la plus grande honnêteté intellectuelle, de dire voilà ce que nous avons fait, voilà ce qu'a fait la droite, voilà ce que la droite nous propose de faire sur la retraite, allongement de l'âge de la retraite, faire en sorte que l'on remette en cause les conditions d'indemnisation des chômeurs, des remboursements pour les soins. Il s'agit de lire le programme de celui qui a gagné la primaire, même s'il essaie d'en édulcorer le contenu pour se rendre compte de ce qu'est le véritable programme de la droite aujourd'hui. Et donc j'invite tous les électeurs de gauche à bien comprendre aujourd'hui qu'entre ce que la droite a fait, ce qu'elle se propose de faire et ce que nous avons fait, nous, et je viens d'expliquer à travers quelques exemples quelles sont les actions que nous avons posées, les décisions que nous avons prises, il y a une différence majeure. Et aujourd'hui, ne pas créer les conditions du rassemblement de toute la gauche pour faire en sorte que la droite et l'extrême droite ne soient pas en situation d'appliquer leur programme serait une faute politique majeure compte tenu du moment historique particulier où nous nous trouvons.
Avant de revenir au standard, question de Frédéric Mettezou.
Oui, monsieur le Premier ministre, la question de Muriel, notre auditrice dans le Calvados, finalement, est-ce que c'est pas une question qui va au-delà de la présidentielle ? Quel que soit le résultat, est-ce qu'une recomposition ne sera pas nécessaire ? À gauche, il y a au moins deux gauches. Vous venez de parler de toute la gauche, mais il y a plusieurs gauches. Est-ce qu'il ne faudra pas à un moment retracer les cartes, les frontières et les limites après la présidentielle ?
Mais moi, je suis un Premier ministre résolument de gauche et je souhaiterais qu'il n'y en ait qu'une qui se rassemble de manière à faire en sorte que, encore une fois, dans le moment historique particulier où nous nous trouvons, avec les populismes qui gagnent partout, la démagogie qui s'impose dans le vacarme et le bruit du débat politique, une droite dont on voit qu'elle assume, et c'est très bien ainsi, son conservatisme, et se propose de remettre en cause le modèle de protection sociale, nous ayons une gauche qui soit, encore une fois, suffisamment consciente du moment historique particulier où nous nous trouvons pour rassembler ses forces. Mais rien n'est le cas spontanément en politique. La politique, c'est un combat. C'est par l'engagement que l'on prend, la sincérité que l'on met dans le discours que l'on tient, les actes que l'on pose, que l'on parvient à créer les conditions de la confiance et du rassemblement. En politique, rien n'est jamais donné. C'est par l'énergie que l'on met sur le métier tous les jours que l'on parvient à créer les conditions du rassemblement. Est-ce que vous imaginez qu'à la fin des années 60, lorsque François Mitterrand s'emploie à rassembler une gauche éparse qui elle-même est parfois dans l'antagonisme de ses familles, il le fait sans y mettre toute son énergie et toute sa force. Eh bien, moi, je suis convaincu que les mois qui viennent, et qui sont les mois de la campagne présidentielle, peuvent permettre à la gauche de rassembler ses forces, peut permettre à la gauche aussi de dire sa différence avec la droite et l'extrême droite, et ne pas le faire compte tenu du risque qui se présente au pays, serait de la part de tous ceux dont le cœur bat à gauche totalement irresponsable. Moi je veux être un Premier ministre qui rassemble tous ceux qui sont dans la conviction que le progrès est possible dans la société.
Une autre question d'auditeur, Thomas, qui nous appelle de l'Oise. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Bonjour,
monsieur le Premier ministre.
Bonjour.
Vous avez été ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous répondez aux responsables du Front National qui accuse le gouvernement de ne pas fermer les mosquées salafistes, des mosquées qui pourraient représenter un danger sur notre territoire?
Je dis deux choses au Front National. Je dis d'abord au Front National qui s'opposait à toutes les mesures antiterroristes. Lorsqu'il s'est agi de mettre en place le PNR européen qui permet de contrôler les flux de passagers à l'intérieur de l'espace européen, mais aussi au moment du franchissement des frontières extérieures, Madame Le Pen s'est faite nommer rapporteur pour avis de ce texte au Parlement européen pour s'y opposer. Lorsque j'ai proposé le blocage administratif des sites internet qui appellent et provoquent au terrorisme, lorsque nous avons proposé l'incrimination pénale d'entreprises individuelles terroristes, Madame Le Pen s'y est opposée avec son parti. Lorsque nous avons fait voter la loi sur le renseignement qui permet aux services de renseignement de disposer de davantage de moyens pour prévenir des attentats, elle s'y est opposée.
Oui, sur les mosquées salafistes.
Premier élément de ma réponse, si vous me permettez, c'est que Madame Le Pen parle beaucoup du terrorisme et accuse beaucoup, mais elle s'oppose à tout, ce qui permet de lutter contre le terrorisme. Premier point. Deuxième point, pour ce qui concerne les mosquées salafistes, je veux quand même rappeler que nous avons fermé une vingtaine de mosquées, que j'ai procédé à la fermeture de la mosquée de Lani, que nous en avons fermé 5 récemment, que nous avons utilisé le moyen de l'état d'urgence pour cela, mais qu'on ne ferme pas des mosquées dans ce pays en contravention avec toutes les règles de droit et les principes constitutionnels. Parce que la lutte contre le terrorisme se fait dans le cadre de l'état de droit. Et donc, Madame Le Pen parle beaucoup, elle fait beaucoup de bruit. Dans le bruit qu'elle fait, il y a beaucoup de mensonges. Ces mensonges sont destinés à dissimuler beaucoup d'impasses, y compris sur la question du terrorisme. Et moi, j'appelle les Français, là aussi, à bien sentir que la lutte contre le terrorisme ne peut se faire que dans le cadre de l'état de droit, que la lutte contre le terrorisme implique que tous les moyens de l'état de droit soient mobilisés pour faire en sorte que ceux qui veulent nous frapper n'y parviennent pas. Et si nous avons arrêté autant de personnes et déjoué autant d'attentats cette année, c'est précisément parce que cette stratégie donne aussi des résultats. Et ça implique qu'on agisse au plan européen par la modification du code frontière Schengen, la réforme du système d'information Schengen, la lutte contre le trafic d'armes. Elle s'oppose aussi à la directive destinée à lutter contre le trafic d'armes. Ça suppose l'interconnexion des fichiers criminels, ce sur quoi nous nous mobilisons et nous nous battons. Donc la campagne présidentielle doit être aussi l'occasion de bien montrer ce que sont les propos du Front National dans leur dimension démagogique et dans leur dimension souvent mensongère, et de montrer aussi ce que nous faisons.
Question d'auditeur aussi, si vous pouvez y répondre brièvement, Bernard Cazeneuve, Paul de l'Hérault qui vous demande comment se fait-il que l'on trouve normal que des voitures soient brûlées le soir du 31 décembre. On a exposé les statistiques tout à l'heure à 8h, 650 voitures incendiées en tout, une hausse de 10% hein, sur un an, chiffre qui a été un peu masqué par votre successeur Bruno Leroux.
D'abord, personne n'admet que l'on brûle des voitures. Et s'il y a une mobilisation aussi forte des forces de l'ordre pendant la nuit du réveillon, et s'il y a une mobilisation aussi forte des forces de l'ordre dans les quartiers, c'est précisément parce que personne n'admet cela. Et moi, je veux rendre hommage au travail des forces de l'ordre pour l'engagement qui est le leur pour éviter que ces actes ne se produisent.
Donc, ensuite, ça n'est pas normal.
Non. Et ensuite, au cours des cinq dernières années, c'est-à-dire pendant ce quinquennat, le nombre de voitures brûlées pendant cette nuit particulière du 31 a diminué de 20%.
Oui, vous avez quand même le signaler. Trouvé le point de référence qui vous arrange.
Non, le point de référence qui nous arrange sur l'insécurité, c'est ce que vous appelez le point de référence qui nous arrange, c'est le travail qui a été fait pendant le quinquennat. Quelle était la situation lorsque nous sommes arrivés? Quelle est la situation que nous laissons? Et est-ce que les statistiques ont évolué à la baisse ou à la hausse?
Parce sur qu'un an,
quinquennat,
c'est à la hausse.
Un quinquennat, ça dure 5 ans. Oui, c'est sur 5 ans que se juge l'action d'un quinquennat. Oui. Et ça, vous pouvez difficilement le contester.
Ah bah là, si vous voulez, on peut le faire pour le chômage, mais là, c'est à la hausse.
Non, mais sur le chômage...
C'est à la hausse, et sur un an, c'est à la baisse.
Non, mais sur le chômage...
Et pour les voitures brûlées, c'est l'inverse.
Sur le chômage, il y a eu effectivement une augmentation du chômage, mais pas du chômage des jeunes, qui a diminué pendant le quinquennat. Et nous avons trouvé une situation en 2012 concernant l'appareil productif, les marges des entreprises, la désindustrialisation du pays, qui nous imposait de prendre des mesures que nous avons prises. Et ces mesures commencent à donner des résultats, ce que je vous ai dit pendant votre émission.
Je vous présente Augustin Trapenard qui... Bonjour Augustin.
Salut Patrick.
Vous avez une question pour notre invité.
Bonjour Augustin, bonne année.
Tous mes voeux.
Plein de bonnes choses à vous.
Justement, vous savez peut-être que tous les ans, Mediapart ouvre ses colonnes à un citoyen qui se met dans la peau du président de la République et qui présente ses voeux aux Français. Cette année, leur choix s'est porté sur Assa Traoré pour des vœux de fraternité. Vous qui avez été ministre de l'Intérieur au moment du drame qui a frappé sa famille en juillet dernier, la mort tragique de son frère Adama Traoré, qu'est-ce que ça vous inspire? Comment est-ce que vous appréciez ce choix d'Assa Traoré, citoyenne présidente pour Mediapart?
Mais moi, je ne commande pas les choix éditoriaux et je comprends que, et je souhaite même que dans l'espace éditorial public français, chacun puisse dire ce qu'il a à dire, même si ce qui est dit n'est pas ce que je dirais moi-même. Et donc la presse dans une démocratie, ce sont des indignations possibles, ce sont des confrontations possibles, ce sont des prises de position souhaitables. Et pour ce qui concerne la situation de qui s'est produite dans le Val-d'Oise avec la famille Traoré, j'ai toujours souhaité que la vérité soit faite. Et j'ai toujours souhaité que l'ensemble des investigations qui sont en cours, l'ensemble des procédures judiciaires qui sont engagées, permettent à la vérité d'advenir. Parce que sur des sujets aussi graves, on doit la vérité à la famille. Et moi, je souhaite la vérité.